m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, Julien, avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, bienvenue dans Restons Courtois, la nouvelle émission de Radio Courtoisie. Alors pour ceux qui prennent le train en marche, Restons Courtois, c'est la nouvelle émission de débat, chaque jour en direct, 17h30, 19h30, en partenariat avec les médias Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et le magazine L'Incorrect, c'est-à-dire c'est nous. Nous recevons d'abord le jeune essayiste Joachim Le Floch Imad qui vient de publier Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté aux éditions du CERF, un essai vigoureux qui ne tortille pas du clavier pour dévoiler les causes de la faillite de l'école et déplorer la trahison des dirigeants politiques successifs. Alors, Joachim Le Floch Imad, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes né, comme votre nom l'indique, dans le Morbihan, le 24 octobre 1996. Après une scolarité à Nantes, vous faites un master à Sciences Po, mais comme vous ennuyez un peu, vous ajoutez un master littérature à la Sorbonne en parallèle. Aujourd'hui, vous êtes enseignant, vous avez été collaborateur de Jean-Pierre Chevènement, tout le monde fait des erreurs, mais vous êtes aussi chroniqueur, notamment sur CNews chez Pascal Praud, et après un premier essai remarqué sur Tolstoï, publié au CERF l'année dernière, pour lequel vous avez reçu le prix Bantôme de la biographie historique, vous revenez cette année avec l'Éducation nationale, une enquête Main basse sur l'éducation nationale. Je vous propose qu'on fasse un petit tour d'actualité, en commençant par ce fait tragique. Aujourd'hui, ce matin, une enseignante de 66 ans a été poignardée en classe par un élève de 14 ans au collège Robert Schumann dans le Bas-Rhin. Donc l'élève est entré en classe à 8h15, a eu un bref échange cordial avec son enseignante avant de la poignarder au visage. Il a ensuite pris la fuite, a été arrêté peu de temps après sur la voie publique par les gendarmes. L'enseignante, professeure de musique, a été blessée au visage. Alors, ses jours ne seraient pas en danger, d'après le Figaro. L'élève, âgé de 14 ans, au profil décrit comme perturbé, avait fait l'objet d'un placement en famille d'accueil, puis en foyer. Qu'est-ce que vous inspire ce nouveau fait? Alors, justement, est-ce que c'est un fait divers ou un fait de société? Et qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle violence, ultra-violence à l'école?
Je vais répondre sur ce cas bien spécifique, mais j'aimerais vous dire avant qu'on n'a pas en effet affaire à un fait divers, mais à un fait de société, puisqu'on a une violence qui ne cesse d'étendre ses ténèbres dans l'intégralité de notre système éducatif. Toutes les statistiques en attestent. On a le troisième pire climat scolaire de l'OCDE selon PISA. On a 100 000 professeurs qui sont menacés ou agressés chaque année selon un récent rapport sénatorial. Et on a enfin une augmentation des violences, des incidents graves à l'école publique de 114% en 3 ans. Maintenant, cette réalité de l'ultraviolence, elle va au-delà des statistiques. Ce sont en effet des drames auxquels on s'habitue de jour en jour. On en a eu un nouveau ce matin. Des drames qui adviennent, je le rappelle, mais dans l'indifférence quasi générale. Il y a encore quelques années, je crois qu'un tel événement, un prof attaqué au visage, au couteau, ça aurait fait la une de l'actualité pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a quelques tweets de politiciens. On a Madame Borne qui nous dit qu'elle condamne avec fermeté, qu'elle se rend sur place, qu'elle crée une cellule psychologique. Et ensuite on passe à une autre actualité toujours plus dramatique. Il ne faut surtout pas légiférer à chaud, comme l'avait dit la ministre il y a quelques mois. Il ne faut surtout pas traiter les causes de fond, mais essayer de colmater les brèches, de s'attaquer aux conséquences. Et tant qu'on n'aura pas agi à la racine, alors on aura toujours plus de drames de ce type au détriment de nos professeurs en première ligne.
Donc on reviendra un peu dans le détail, parce que c'est aussi le sujet de votre livre, justement, tout ce qui ne va pas dans l'éducation nationale. Restons encore en France, où s'ouvre aujourd'hui le procès du violeur de Claire Géronimi, donc ce centrafricain de 27 ans, qui avait déjà été condamné 11 fois par la justice, notamment pour violence, menaces, port d'armes, encore des affaires liées aux stupéfiants. Et en outre, il est soupçonné d'avoir violé et agressé sexuellement 2 jeunes filles durant son enfance, quand il était en famille d'accueil et en foyer. Et pour couronner le tout, il faisait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire. Donc plusieurs obligations de quitter le territoire, n'est-ce pas là le centre du problème ?
Exactement. Alors on a un problème avec l'idéologie permissive qui domine une large partie de la magistrature française et qui justifierait, selon moi, d'ouvrir davantage celle-ci à la société civile, de revoir la formation qui est dispensée, de sanctionner les syndicats, je pense aux syndicats de la magistrature, lorsque des dérives d'ordre idéologique adviennent. Maintenant, on a moins à faire à un problème avec la justice qu'à un problème qui est d'ailleurs au cœur de mon ouvrage, qui est l'impuissance consentie, l'impuissance fabriquée du politique. Donc on a 2000 places seulement en centre de rétention administrative, un stock total d'OQTF d'à peu près 700 000 fourchettes basses, hein, selon un rapport sénatorial. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme sur tant de sujets, on vide l'océan à la petite cuillère, on fait semblant d'agir, alors que les Français attendent des actes forts. Emmanuel Macron avait promis 100% d'OQTF exécutés. On voit qu'on a un taux d'exécution qui est encore plus faible que sous François Hollande, parce qu'on n'est pas capable d'avoir un rapport de force avec les pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires, parce qu'on n'est pas capable de changer la loi, parce qu'on n'est pas capable de réviser la Constitution, alors même que tous les pays autour de nous avancent, hein, l'Italie, moins 60% d'immigration irrégulière en un an, l'Allemagne, où les demandes d'asile ont baissé de 50%, donc ça montre que quand il y a une volonté, il y a un chemin, mais je ne vois pas cette volonté politique à l'horizon en France.
C'est un problème d'impuissance, de manque de volonté, ou c'est un problème de courage ?
C'est un problème d'idéologie, un problème de courage, les deux pouvant tout à fait aller de pair.
Comment passons d'une biographie de Tolstoï à une autopsie de l'éducation nationale ?
Il y a une certaine cohérence, puisque je consacre un chapitre de ma biographie de Tolstoï à sa vision des politiques éducatives. Il était extrêmement influencé par les préceptes de Rousseau. Il avait d'ailleurs fondé une école dans son domaine, Yasnaya Palyana, où il y avait l'idée qu'il fallait promouvoir une éducation populaire qui ne déracinait pas les enfants et qui oblitérait tout ce qu'il faisait à la verticalité, c'est-à-dire que le maître apprenait autant de l'élève que l'élève apprenait du maître. Alors ces théories-là, évidemment, elles ont été un peu caricaturées ensuite, elles ont été dévoyées par un certain nombre d'intellectuels, de réformateurs, c'est tout le courant de l'éducation nouvelle au tournant du XXe siècle, et ça s'est traduit, ce mot d'ordre s'est ensuite traduit politiquement par toutes les réformes que je crois pour le coup extrêmement néfastes des années 70-80. Mais tout ça pour dire qu'il peut y avoir une filiation entre Tolstoï et les réflexions sur l'école. Je fais d'ailleurs pas mal référence à Tolstoï dans l'ouvrage.
Alors, vous attribuez la responsabilité de cette crise aux élites coupables d'un, je cite, suicide assisté. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Alors, je parle moins d'une élite d'ailleurs que d'une caste qui se prend pour une élite, qui en revendique le nom et les privilèges qui vont avec, sans assumer sa part de responsabilité. Alors, quelle est cette élite ? Comment peut-on la caractériser ? C'est pas une élite, c'est une élite politique d'abord, gauche, centre et droite confondue, mais c'est aussi une élite administrative, c'est aussi une élite médiatique qui s'est, je crois, retournée contre l'école à la faveur d'une double démission. D'abord, une démission d'ordre intellectuel, c'est-à-dire que l'école est brouillée dans sa finalité, émietté dans ses missions. On avait auparavant une école qui avait vocation à instruire, on a une école aujourd'hui qui a vocation à co-construire les savoirs, on avait une école qui éduquait, on a aujourd'hui une école qui rééduque, selon la vieille ambition révolutionnaire de former un homme nouveau. Et je pense que cette transition, qui tient d'ailleurs dans le nom, dans le changement de nom du ministère, le passage de l'instruction publique à l'éducation nationale, je crois que ce retournement de l'école contre sa mission de transmission des savoirs est à l'origine de tous les maux qu'on déplore jour après jour, plateau après plateau, la baisse du niveau, la montée des incivilités, le mal-être des professeurs. Donc ça, c'est la démission d'ordre intellectuel. Et à cette démission intellectuelle s'ajoute une démission du politique. Encore une fois, c'est le politique qui a fait l'école de la République, cette même école qui a fait la nation française, et c'est aujourd'hui le politique qui la regarde se défaire avec toujours plus d'impuissance. Donc on a des ministres qui se succèdent à un rythme éclair, des ministres qui défilent, encore une fois, toute majorité politique confondue, qui sont pour l'essentiel des politiciens sans légitimité. D'ailleurs, Madame Borne avait dit qu'elle n'avait pas d'expertise particulière en arrivant au ministère lors de son discours de passation. Des ministres qui n'ont pas de volonté, des ministres qui n'ont pas de courage, qui gèrent en quelque sorte les affaires courantes ou qui font de la communication, qui font des effets d'annonce et qui laissent l'école naviguer à vue. Il n'y a qu'à voir les débats qui nous occupent en cette rentrée scolaire. De quoi est-ce qu'on parle ? On parle de l'éducation à la sexualité, on parle des quotas filles-garçons en classe prépa, on parle de la réglementation autour des réseaux sociaux, des compétences psychosociales. Bref, on n'a pas de politique éducative, on a uniquement des propositions de façade, et pendant ce temps-là, l'agonie de l'école se poursuit. Donc c'est ça pour moi la démission des élites.
Alors vous parlez d'état profond. Alors vous doutez bien qu'on va vous agrafer sur la trogne au mieux le non-populisme,
c'est
au déjà, pire le non-complotisme.
C'est déjà fait, j'ai eu le droit aux deux.
Et alors ça vous fait plaisir, pourquoi utiliser ce mot-là, état profond ?
Je suis plutôt indifférent à ce genre d'attaque. Vous savez, le terme de populisme ou le terme de complotisme, ce sont des mots qui n'ont pas vocation à décrire mais à décrier. Ce sont des mots valises. Oui, l'état profond, je conçois que ça puisse être légèrement connoté, mais c'est une expression qu'Emmanuel Macron lui-même a employée en 2019 au sujet de la politique étrangère. Anne Genetet, après son passage rue de Grenelle, a dit qu'elle s'était heurtée à une administration qui avait pris des décisions de nature politique à sa place, à une administration qui avançait seule. Et c'est de ça que je parle dans cet ouvrage, c'est de l'impuissance du politique qui a un mal dont on parle constamment en matière économique, en matière judiciaire, en matière migratoire, mais trop rarement en matière éducative, en dépit de la cohorte des ministres qui ont été corsetés depuis 40 ans, qui ont vu leurs propositions de réforme se perdre dans les sables, et j'en parle énormément dans l'ouvrage. Mais tout ça ne procède pas d'un complot, je suis plutôt, malgré mon chevènementisme rocardien de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot qui demande un esprit rare. Je pense que c'est surtout une impuissance du politique organisée, encore une fois, à force d'idéologie, à force de renoncement, de lâcheté du quotidien. C'est la phrase de Jospin que je citais tout à l'heure, qui avait dit en 1989, lors de l'affaire du foulard de Creil, « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Donc c'est ça, c'est pas un complot, c'est d'abord une lâcheté.
Rémi Carlu.
Oui, la connerie en l'occurrence, c'est que l'égalitarisme, le nivellement par le bas, disons, donc a produit la diminution du niveau d'exigence générale au sein de l'éducation nationale. Et les conséquences, c'est que ça empêche tout simplement les classes populaires de s'élever, oui. Puisque les classes populaires ne disposaient que de l'école pour avoir accès à la grande culture, alors qu'à l'inverse, les classes plus élevées, on peut avoir accès à des professeurs particuliers, il y a la sociabilisation primaire, il y a le contact avec la culture. Donc, ma question, moi, c'est est-ce que ces élites dont vous parlez, qui ont mené ces réformes, se rendent compte de leur bêtise absolument folle, qui est absolument dingue et qui est criminelle du point de vue des classes populaires qui, à une époque, ont profité des fameux hussards noirs pour pouvoir s'élever et qui, aujourd'hui, sont complètement condamnés. Donc, in fine, ça produit de l'inégalité et de la reproduction sociale à foison.
L'un des grands paradoxes de notre temps, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'inégalités qu'à l'heure où toutes les réformes conduites sont justifiées par la lutte contre ces mêmes inégalités. Je sais pas s'il y a un complot ou une malveillance des élites. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on a détruit, en effet, l'école comme outil de promotion sociale. L'école de la Troisième République, elle avait certes ses défauts, mais elle avait tout de même permis à Albert Camus, qui était le fils de pieds noirs analphabètes, de devenir Camus. Elle avait permis à Charles Péguy, qui était le fils d'une rempailleuse de chaises, de devenir Péguy. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un ascenseur social qui est totalement en panne. Et si vous êtes un enfant pauvre en France, selon PISA, vous avez 10 fois plus de chances d'être en difficulté que si vous êtes un enfant d'une famille riche. Donc, en effet, il faut reconstruire l'école comme outil de promotion sociale au service de tous. Et si on en reste au statu quo qui est le naufrage éducatif, alors vous aurez toujours plus d'inégalités avec, vous l'avez très bien décrit, des familles riches qui sont à l'abri parce qu'elles peuvent miser sur autre chose que l'école. Elles peuvent miser sur le préceptorat familial, sur le hors contrat, sur la scolarisation des enfants à l'étranger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une grande partie de ceux qui nous gouvernent, qui ont les moyens de mettre leurs enfants à l'école alsacienne, par exemple, je ne pense à personne en particulier, mais sont assez largement indifférentes au naufrage en cours.
Mais pensez-vous vraiment que l'école publique peut aujourd'hui être encore sauvée? Est-ce que l'institution n'est-elle pas si irrécupérable, si gangrénée, que le salut ne passerait par, en tout cas pour un temps, uniquement par le privé ou même par leur contrat?
Je pense que l'éducation nationale n'est pas ingouvernable, qu'elle est simplement mal gouvernée depuis une quarantaine d'années, et que la bataille que j'appelle de mes voeux pour reprendre en main l'école n'a jamais été conduite. Ça me rappelle un peu les débats que j'ai avec des amis frexiteurs sur les questions européennes, où ils me disent « il n'y a rien à faire, il faut en sortir ». Mais en réalité, on n'a jamais essayé de faire entendre une voix française à Bruxelles, de même qu'on n'a jamais voulu faire entendre au sein du ministère une voix favorable au redressement de l'école. Depuis 40 ans, c'est une métaphore que j'utilise dans le livre, mais si vous êtes à bord du Titanic et que celui-ci fonce vers l'iceberg, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est pas de demander à chacun d'affréter son canot de sauvetage, ce qui serait en quelque sorte la voie du libéralisme scolaire. C'est plutôt de faire en sorte que le bateau change de cap en ayant un vrai capitaine à sa tête.
Mais quand on peut plus changer le cap, mais on peut mieux monter dans un canot de sauvetage.
On peut encore changer le cap. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre avec des préconisations qui n'ont jamais été mises en œuvre depuis 40 ans. Je parlais tout à l'heure de Claude Allègre. Il a dit certes qu'il fallait dégraisser le mammouth. Il avait raison de le dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait derrière? Absolument rien. Il est resté quelques mois et derrière Lionel Jospin lui a planté un couteau dans le dos et il est parti. Moi, je pense qu'avec des politiques ambitieuses, vous pouvez redresser l'école. Et il s'agit pas d'opposer l'enseignement public et l'enseignement privé. Ce sont deux types d'enseignement qui ont chacun leur qualité propre et qui ont chacun leur faiblesse. Il faut pas idéaliser le privé non plus. Je connais très bien ce système. J'y ai grandi, j'y ai fait, euh, J'y ai fait ma scolarité, mais c'est aussi un système où il y a beaucoup de problèmes qui se posent, hein, en matière de baisse du niveau, en matière de baisse du niveau des jeunes profs. On parlait de la faiblesse des exigences, mais pour le CAFEP, le concours de l'enseignement privé, vous avez un taux de réussite qui est encore plus grand que dans le public. Donc il y a des problèmes qui se posent dans le privé, et si le privé s'en sort mieux sur certains points, c'est aussi parce qu'il y a une composition sociologique de la population qui l'accueille qui est beaucoup plus favorable. Donc encore une fois, évidemment, je suis pas de ceux qui font du privé un bouc émissaire de nos maux, et vous me trouverez toujours sur la route de ceux qui veulent le diaboliser, essentialiser, comme on l'a vu au moment de l'affaire Betaram. Mais je pense pas que la privatisation de l'éducation nationale soit le remède miracle à ces maux. Je pense plutôt qu'il faut reprendre en main l'ensemble du système avec des politiques publiques courageuses.
Du point de vue de l'autorité des professeurs, comment vous pensez qu'on pourrait la restaurer, puisqu'on est à ce niveau-là dans une crise quasiment anthropologique où finalement toutes les figures d'autorité sont en crise, les pères, les politiques, les patrons, les chefs de quel ordre qu'il soit, sans doute depuis qu'on a guillotiné Louis XVI d'ailleurs, et donc aujourd'hui en tout cas cette suite de chutes de figures d'autorité a atteint évidemment les professeurs qui en plus pâtissent sans doute de salaires peu reluisants, enfin d'une fonction sociale extrêmement dégradée. Donc est-ce que vous auriez des formules ou des pistes pour restaurer cette autorité ?
Alors, votre question est très intéressante et m'amène une réflexion que j'ai pas eu l'occasion de développer pour l'instant, mais qui est que l'école, ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas une réalité autonome de la société, c'est une caisse de résonance des mots, des lames de fond civilisationnelles qui sévissent au sein de cette société. Et vous avez raison de dire que la crise de l'autorité existe à l'école parce qu'elle existe préalablement dans la société française, mais dans le monde occidental en réalité. Maintenant, il y a quand même des politiques éducatives spécifiques, il me semble, qui pourraient être conduites. D'abord en faveur de la revalorisation intellectuelle des professeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il fallait passer de l'idée du prof animateur à l'idée qui a fonctionné pendant des décennies du professeur maître de ces disciplines. Et parce que l'autorité, elle est indissociable de l'admiration qu'on est capable de susciter chez des élèves qui sont en quête de sens, en quête de repères, qui arrivent de moins en moins à distinguer le bien, le mal, le réel du virtuel. Donc je crois qu'ils seraient demandeurs de ça en réalité si on se donnait les moyens de reconstruire vraiment la légitimité intellectuelle des professeurs. Et la reconstruction de l'autorité, elle passe par ailleurs par des politiques sécuritaires, disciplinaires beaucoup plus ambitieuses. C'est protéger les 100 000 professeurs qui sont menacés ou agressés chaque année. C'est les soutenir lorsqu'ils font face à des contestations d'enseignement. 56% des professeurs disent en être victimes. C'est les soutenir au quotidien, alors même que la bureaucratie de l'éducation nationale a tendance à les laisser livrer à eux-mêmes en première ligne sur le terrain. Ça permettrait vraiment de revaloriser l'autorité des profs. Mais on en est très loin aujourd'hui. Quand on voit la manière dont on les abandonne, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en cette rentrée scolaire. Par exemple, cette directrice d'école dans le Cantal qui a été harcelée pendant des mois, l'éducation nationale qui manifestement n'a pas été capable de la protéger. Enfin, en tout cas, elle s'est donnée la mort en ayant ce sentiment-là.
Vous avez évoqué tout à l'heure le voile de Creil. Ouais. Alors, bon, y a des saisons en France. L'été, c'est le burkini. Septembre, c'est la baïa. Et le sujet de la laïcité revient en permanence, et notamment à l'école. Première question, est-ce que c'est le rôle de l'école d'enseigner la laïcité ? Et deuxième question, c'est est-ce que justement on ne se plante pas depuis 89 parce qu'on parle de la laïcité alors qu'il n'est pas question de religion ?
On parle mal de laïcité depuis 1989. On a une conception très libérale de la laïcité au sein du ministère. Il faut voir les associations qu'on laisse rentrer. Je pense à la Vigie de la laïcité, par exemple, qui défendent une approche extrêmement libérale de la laïcité, qui considèrent que la loi de 2004, c'est une loi islamophobe, par exemple, ce qui correspond à la propagande des frères musulmans. En réalité, il y a quand même une tradition française de laïcité qui s'est construite depuis les guerres de religion comme code de discrétion. C'est la formule de Jean-Éric Schotel, qui est reprise par des politiques, Jean-Pierre Chevènement, Éric Zemmour même, d'une certaine manière. Donc je pense qu'on a trahi la laïcité plutôt qu'on l'a défendue depuis plusieurs décennies. Maintenant, la laïcité, c'est une digue qui permet de faire face à un certain nombre d'offensives islamistes, mais elle sera impuissante si derrière, vous ne reprenez pas en main la démographie. On ne peut pas faire venir des peuples entiers sur le continent européen et leur demander du jour au lendemain de renoncer à leur code culturel, à leurs héros, à leurs croyances. Donc la laïcité, oui, mais à condition d'avoir préalablement une politique migratoire cohérente, avec une vraie assimilation, ce à quoi on a renoncé d'ailleurs. Le mot assimilation est devenu un gros mot. On est passé de la logique de l'assimilation à la logique anglo-saxonne de l'intégration, et maintenant on en est à parler d'inclusion.
Et vous pensez que l'assimilation est encore possible aujourd'hui ?
Elle est possible pour des individus, pas pour des peuples. Mais moi, mon père est venu du Liban pendant la guerre civile libanaise. J'ai la moitié de mon sang qui est arabe, mais je pense, j'espère en tout cas porter à mon échelle une partie de l'héritage français qui me dépasse, qui nous dépasse tous. Donc l'assimilation, elle est possible pour des individus, elle n'est pas possible pour les masses, surtout dans un contexte qui est celui qu'on connaît.
Joachim Le Floquimann, merci. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de littérature et ça concernera également l'école. Je rappelle votre livre « Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté » aux éditions du CERF. Et donc aujourd'hui, nous recevons en tant que deuxième invité Emmanuel Godeau. Emmanuel Godeau, merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes poète, écrivain, essayiste. Vous enseignez la littérature au lycée Henri IV à Paris. Vous êtes l'auteur de très nombreux essais, de récits, de recueils de poésie. En 2024, vous avez notamment fait redécouvrir la splendeur de la Divine Comédie comme voie spirituelle dans ton âme est un chemin chez Arthège. L'année d'avant, vous avez publié une monumentale biographie de Maurice Barrès chez Talandier. Même le journal Le Monde en a dit du bien, si vous dire. Vous avez écrit entre autres sur Nerval, Claudel et Blois. Aujourd'hui, vous revenez avec les grands livres aux éditions de l'Observatoire dans lequel, fidèle à votre sujet, vous explorez les liens entre littérature et spiritualité. Un livre qu'on qualifierait presque de manuel de survie dans une époque qui flatte l'inculture pour mieux cacher ses bruits et son néon. Question simple, à quoi bon lire encore de la littérature aujourd'hui ?
Ah ! Bah pour essayer de garder le fil, je crois, de notre intériorité dans un monde et une société qui a des moyens extrêmement puissants pour nous priver de nos vies intérieures.
Alors, vous écrivez « la vérité nue et lumineuse, tel est le secret des classiques. Ils ne promettent pas monts et merveilles, ne décrivent pas une humanité hors d'atteinte, mais lèvent le voile sur notre visage. » Comment définir un classique ? Et quels sont ces fameux classiques ?
Ah, c'est là des... Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai une définition qui est un petit peu métaphorique. Je dis qu'un grand livre, c'est un livre qui nous grandit. Et donc les classiques, bon, si je prends la définition qu'on connaît bien, ben, c'est un texte qu'on va étudier dans les classes. Mais tout de même, c'est un texte qui a traversé... les anciens disaient, Horace disait que pour apprécier la qualité, la vertu intrinsèque d'un livre, il fallait attendre une centaine d'années. Et je crois que cette vertu du temps, de la patience, du fait qu'un livre nous parvienne... lu à travers des générations, c'est pas une mince affaire. On est dans un monde qui nous tend aujourd'hui tout en nous disant voilà quelque chose qui est culte, voilà les classiques d'aujourd'hui. Un peu de patience, on verra dans 50 ou 100 ans. Enfin, nous le verrons peut-être pas, mais nos enfants, petits-enfants, eux pourront dire quels étaient les classiques d'aujourd'hui.
Charles Péguy qui disait « Homère, mais nouveau ce matin, rien de plus ancien que le journal d'aujourd'hui ». Justement, on gagne Monsieur. Toujours à revenir aux classiques qui n'ont pas traversé les siècles pour rien et qui souvent nous permettent de faire un détour hors du présent, un détour hors de nous-mêmes pour y revenir mieux armés ensuite.
Justement, Joachim, quel est le classique que vous n'auriez jamais lu sans l'aide de l'école et qui vous a émerveillé, qui vous a bouleversé, qui a fait changer votre regard sur le monde ?
Sans l'aide de l'école, je pense que Anna Karenine, qui m'avait été conseillée par mon professeur de philosophie et qui est pour beaucoup dans le fait que j'ai écrit une biographie de Tolstoï ensuite.
Alors, nos auditeurs l'ont compris, Emmanuel Godeau ne pourra pas vous cataloguer dans le camp des progressistes pour une raison simple, c'est que dans notre époque qui prône le tout est culture, l'égalitarisme partout, vous vous affirmez que non, tous les livres ne se valent pas, vous prenez même la hiérarchie. Alors que faites-vous donc de la fameuse maxime, le goût et les couleurs, on ne peut pas les juger, quand chacun voit midi à sa porte, voilà. Et comment hiérarchiser surtout ? Quels sont les critères de hiérarchie ?
Tous les goûts sont dans la nature, mais tous les goûts ne sont pas dans la culture. Finkielkraut l'a montré déjà dans les années 80, en 87, dans la défaite de la pensée, avec ce slogan des populistes russes, une paire de bottes vaut Shakespeare. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va dire, lisez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir. Mais justement, il y a un critère qui est quand même plus important que le plaisir, c'est la construction intérieure. Quand on avance peut-être en âge, en maturité, on se dit, avec les expériences de l'existence, les deuils, les amours, les passions, les trahisons, etc., etc., on a besoin d'une nourriture littéraire, spirituelle, je ne dissocie jamais les deux, forte. Et donc, il y a des livres, on en a tous fait l'expérience, on peut lire des livres qui viennent de sortir, qui sont tout à fait agréables à lire, et puis deux semaines plus tard, il n'en reste strictement rien. Donc, on a passé un bon petit moment, et puis, en revanche, Racine, je peux rentrer à chaque fois dans Bérénice, à la 10e ou 12e ou 15e lecture, ou 10e représentation, je serai toujours ébloui par tel ou tel passage magnifique.
Pour se faire comprendre à nos auditeurs, c'est qu'aussi Emmanuel Godot est un poète et il écrit merveilleusement bien, et c'est pas du tout un ouvrage d'essayiste froid, technique ou scolaire, c'est le contraire même, c'est une langue très habitée, sa langue même, pour parler de la littérature, est une langue très habitée, très vibrante, avec des formules très élégantes, enfin c'est très agréable à lire aussi pour ça. On sent que les classiques vous inspirent même dans votre manière d'en parler. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ce que je trouve très impressionnant, c'est cette manière que vous avez de redonner toute sa puissance à la littérature, qui n'est pas un loisir un loisir bourgeois, comme auraient dit certains à une autre époque, mais pas un loisir bourgeois, mais quelque chose qui construit, qui structure, qui fait grandir, comme vous le dites, mais de manière très concrète, d'une certaine manière une technologie de pointe, et ça s'inscrit, je trouve, dans un grand bouleversement dont moi j'ai le regret, notamment, c'est-à-dire la fin des humanités, la fin de la suprématie des humanités qui, jusqu'au début du XXe siècle, étaient finalement les matières principales, la littérature, la philosophie, l'histoire, c'est-à-dire celles qui construisent des humains étaient plus importantes que les matières des ingénieurs, celles qui permettent de fabriquer des choses. Cette hiérarchie, parmi d'autres, s'est renversée, et depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on ne prend au sérieux que la science dure, que celle qui permet de transformer le réel, mais plus de transformer les êtres. Et vous, et on voit très bien que vous permettez, au contraire, de restituer aux humanités et à la littérature sa puissance, sa nécessité. Est-ce que vous pensez que c'est un changement qu'on peut rebasculer dans l'autre sens, de certaine manière? Est-ce qu'il y aurait une lame de fond qui nous permettrait de redonner, sans parler des filières littéraires, là on revient aussi à un débat sur l'éducation, sans parler aux filières littéraires qui sont complètement dégradées, déchues dans l'enseignement aujourd'hui?
Oui, on y travaille, j'allais dire, on est nombreux à se lever, à rappeler que ces trésors sont là, que nous mourrons de soif auprès de la fontaine, comme disait Villon, repris par Charles d'Orléans, et que on a peut-être justement eu deux excès par rapport à la littérature conjoint, c'est-à-dire celui dont on parlait tout à l'heure, le plaisir du texte fait voilà, ce qui fait que de toute façon on peut lire à l'école, on a baissé la garde, je vais pas polémiquer sur les auteurs qu'on a introduits à l'école, mais bon, on a tous
de
bons exemples. des auteurs contemporains. Depuis Pénac, on a introduit cette idée de plaisir uniquement de la lecture. J'ai rien contre lui, mais ça a ouvert la porte à justement une baisse de vigilance à l'égard de la qualité des textes. Et puis, on a eu l'excès inverse qui était parallèle, qui a commencé peut-être même avant, c'est l'excès techniciste, de transformer le texte littéraire en une sorte d'objet à disséquer, en regardant d'ailleurs du côté de la science dite dure, effectivement, pour essayer de plagier, de parodier, c'est-à-dire la grande époque de la linguistique, du structuralisme, etc., qui ont produit de bonnes choses du point de vue critique, il y a de bonnes choses. Évidemment, je ne vais pas renier Barthes complètement, mais là encore, il y a eu un excès, et on redécouvre, depuis maintenant une trentaine d'années, que la littérature, il y a eu un très bel essai de Todorov à l'époque, rappelant que, oui, la littérature, c'est d'abord de l'expérience, c'est d'abord de l'existentiel, c'est d'abord un regard sur le monde, et donc que tout cela, c'est une traversée de la langue, mais traversée humaine et qui résonne avec nos propres expériences.
Une quête de sens aussi.
Il y avait
eu un ouvrage, je crois, d'Antoine Compagnon sur le sujet, le démon de la théorie. On est en plein, il me semble, dans les dérives que vous dénoncez. Pour revenir sur la destitution de la langue française, elle a eu lieu dans les salles de classe, mais elle a aussi eu lieu au sommet de l'institution, au sein même du ministère, où on a vu, et j'en parle dans l'ouvrage, mais la pénétration des textes et discours officiels par une sorte de novlangue managériale. On parle plus de contrôle, mais d'évaluation sommative. On parle On parle de performance, on parle des élèves et des professeurs comme des stocks et des flux. Je pense que le fait que le ministère soit incapable à ce point de montrer l'exemple, ça participe largement à la tendance que vous déplorez, à raison.
Oui, je crois que vous avez raison, effectivement. Il y aurait un débat, et je crois que vous l'avez mené déjà largement tout à l'heure, mais sur ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines dans, dans l'éducation nationale. Il y aurait pas mal de choses à dire.
Vous avez parlé un petit peu de l'entrée d'auteurs contemporains dans les programmes. Diriez-vous qu'aujourd'hui, les classiques sont encore correctement enseignés dans les programmes, ou est-ce que ça n'est plus tout à fait le cas déjà ?
Dans ces réflexions sur l'école, on voit bien qu'il y a une tendance générale qui n'est pas la bonne. Donc, évidemment, je peux partager un certain pessimisme et une inquiétude très profonde, parce que ça me peine de voir notamment de jeunes collègues qui ne sont pas suffisamment formés et qui arrivent avec une connaissance plus que fragile de la littérature, notamment si je m'en tiens uniquement à l'enseignement des lettres. Mais en même temps, je voudrais pas que ce soit la seule vision que je propose, parce que je vois aussi beaucoup d'individualités qui sont passionnés, qui travaillent, qui lisent, qui se construisent une véritable culture et qui ont envie de transmettre cette culture et qui font cette expérience que nous avons faite. Moi, je l'ai faite, j'ai commencé ma carrière, je vous parlais du lycée Henri IV, j'ai commencé dans un lycée général et technique dans le bassin minier pendant 10 ans, et j'enseignais la littérature, j'enseignais les classiques, et j'ai toujours vu chez mes élèves même des élèves venant de milieux très défavorisés au plan culturel, un intérêt. Il se passait quelque chose, toujours, avec les grands textes. Et donc, moi, j'ai quand même bon espoir qu'à partir de ces individualités-là, on puisse tout de même renverser à un moment donné la tendance qui n'est pas bonne.
Je pense en effet qu'il y a deux réalités qui cohabitent. D'un côté, il y a une propension du ministère à réduire les humanités, notamment en français, à la portion congrue. Et de l'autre, il y a fort heureusement les trésors de dévouement dont beaucoup de nos professeurs sont encore capables. Il faut voir par exemple l'exemple qu'a légué à la postérité Dominique Bernard, qui a été assassiné à Arras, qui était passionné par l'œuvre de Julien Gracq notamment, qui aimait de tout son être la langue française et qui avait le souci de transmettre celle-ci à ses élèves, encore une fois dans l'intérêt en particulier des plus défavorisés, des catégories populaires, qui sans l'école n'auraient d'autres moyens pour accéder à ce savoir qu'elles ne trouveront jamais chez eux. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une classe politique, d'un ministère ambitieux sur le plan intellectuel à l'endroit de la jeunesse. Et c'est pour ça que j'aurais jamais de mots assez sévères à l'endroit d'un Nicolas Sarkozy, par exemple, qui avait parlé de La Princesse de Clèves comme un ouvrage tout à fait dispensable et indigne de susciter l'intérêt d'une guichetière. Je pense que cette vision extrêmement utilitariste des humanités a fait énormément de mal et qu'on vit toujours malheureusement sur cette logique.
Je vous rappelle qu'un des ministres de Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre, disait que son livre de chevet était Zadig et Voltaire.
Ouais, c'est beaucoup.
Ça donne le niveau.
Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on a organisé pour le numéro de l'Incorrect de ce mois-ci une discussion sur la fin de la civilisation du livre avec Alain Finkielkraut, Éric Nolot et Patrice Jean. Et Patrice Jean soulevait un point. En tant que professeur, lui, en tant qu'écrivain, il expliquait qu'en gros, la littérature était plutôt encore défendue à l'école, mais que le problème, c'est qu'il n'y avait plus de relais dans la société civile. Et donc, d'une certaine manière, une fois l'élève sorti de la salle de classe, même s'il a pu être branché sur un classique pendant une heure, en fait, il n'y a plus aucun relais dans la société civile qui va soutenir cette culture ou cette appétence, de sorte qu'en fait, tout s'effondre. Est-ce que vous partagez ce constat? Et si oui, comment on peut mettre en place des relais, des piliers pour essayer un petit peu partout, disons, de ressoutenir cette culture classique?
Oui, c'est vrai que ce qu'on appelle peut-être la culture populaire, la formation continue, les conférences ouvertes à tous. Moi, je le vois un petit peu à l'Université catholique de Lille, où on a un volet comme ça de conférences ouvertes. Mais c'est, on dirait qu'il y a il y a l'école, et puis ensuite ces conférences-là sont des personnes plus âgées en général, et c'est vrai qu'entre deux, c'est un peu le désert effectivement. La télévision de temps à autre s'intéresse à des auteurs, mais toujours sur un mode. On introduit une petite dérision, une certaine désinvolture. À partir du moment où vous parlez de culture classique, il faut toujours qu'il y ait un petit filtre humoristique qui vienne en fait rabaisser en avec toujours l'idée que oh il faut les dépoussiérer, ils ne sont, il faut, si on fait pas cette manœuvre là, ça n'intéressera personne. Ce qui à mon avis est faux, parce qu'on les ramène finalement dans notre horizon qui est quand même assez étriqué. Et alors que justement leur vertu, c'est de nous dépayser, de nous décentrer, comme on dit parfois.
Oui, ce qu'on n'a pas justement par rapport à cet héritage merveilleux, et ce qu'on n'est pas menacé aujourd'hui par la cancel culture notamment, puisqu'on ne cesse de réévaluer les classiques de manière totalement anachronique, enfin de réévaluer les propos. On a réévalué Depardieu, Blier récemment pour des comportements, etc. Mais c'est le cas aussi de classiques. On sait qu'il y a des pièces qui ne sont plus jouées pour des raisons idéologiques qui ont changé. Est-ce que il n'y a pas justement les classiques nous ouvraient à une compréhension du monde plus large ? Est-ce qu'il n'y a pas une restriction comme ça mentale ? Et premièrement, et deuxièmement, est-ce que ce danger de la cancel culture vous paraît menaçant, croissant, ou au contraire ne fera que nous effleurer en France parce qu'on est suffisamment résistant, contrairement aux anglo-saxons?
Je pense que nous en sommes menacés, de la même manière, peut-être avec d'autres biais, d'autres moyens, mais vous avez prononcé un mot très important tout à l'heure, c'est le mot d'hubris, et c'est l'hubris du monde contemporain, c'est-à-dire qui prétend ne se penser qu'à partir des outils que lui-même forge. Et donc, y a une forme de narcissisme épouvantable de notre époque, qui est vraiment c'est le serpent qui se mord la queue ou qui se contemple dans le miroir qu'il se tend à lui-même, et tout ce qui vient du passé et qui, justement, met en lumière nos manques, nos défaillances, nos fautes morales. Moi, je prends dans le livre assez fugitivement, mais l'exemple de la funeste période du Covid, où on a quand même privé de rites funéraires un certain nombre de familles pour des personnes qui sont mortes dans une forme de négation de la dignité humaine. Et ce sont pas des mots grandiloquents, c'est la réalité qu'ont vécu bien de nos contemporains. On pense à Antigone. On se dit là. C'est quelque chose de monstrueux. Nous en avons été les contemporains, les témoins. Et effectivement, je crois que cette manière de retailler les classiques sous couvert de les dépoussiérer, parce que chez nous, en France, ça va être... Vitesse n'aimait pas ce mot déjà. Dans les années 70, il disait « on dépoussière pas les classiques, ils n'ont pas besoin de l'être ». Parce que précisément, les classiques, ces grands textes, que ce soit Shakespeare ou Hugo ou d'autres, ils ont une énergie extraordinaire. Moi, je suis toujours frappé quand on ouvre ces grands textes, à quel point ils arrivent, ça y est, ils sont là, et ils débarquent avec une vitalité dont nous sommes en passe de perdre le sens et le goût, parce que nous nous habituons vivre dans un monde qui est celui que vous avez décrit tout à l'heure, avec de constants outrages à la dignité humaine. Et ça, les classiques, oui, je crois que il faut cette manière de les retailler, de les c'est un des symptômes de notre mal contemporain.
En une minute, quel classique faut-il avoir lu à 10 ans, à 20 ans et à 40 ans?
Oh là, 10 ans, qu'est-ce qu'on lit comme classique à 10 ans? Alphonse Daudet, on lit des textes de... On peut commencer quand même un peu de Victor Hugo, je ne sais pas, je suis peut-être un peu présomptueux. Après, vous m'avez dit 20 ans.
20 ans.
Oh, La condition humaine de Malraux, on se forge quand même avec des textes comme cela, peut-être. 40 ans, oh, tout Balzac, là, on se dit que quand même... Oui, on peut aller chez Balzac.
Il y a 80 ans, au seuil de la mort, le classique, faut-il le relire?
On revient à Dante, évidemment. Si on n'a pas lu Dante à 80 ans,
c'est une rentrée pour tout le monde, rentrée littéraire et scolaire pour tout le monde.
Il me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Emmanuel Godot. Je rappelle votre ouvrage avec les grands livres aux éditions de l'Observatoire. Je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer immédiatement chez votre libraire. Si votre libraire est de gauche, ben vous pouvez aller chez Amazon. Ça lui fera les pieds.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Chers auditeurs, vous êtes bien sûr sur Restons Courtois, l'émission de débat quotidienne, 17h30, 19h30, chaque jour, lundi, vendredi. Et nous recevons l'historien Éric Branca. Éric Branca, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes historien, bien sûr, nos auditeurs vous connaissent bien, notamment à travers vos livres passionnants. C'est vrai que on plonge dans cette histoire, c'est merveilleusement bien écrit, c'est vivant, on découvre plein de trucs, plein d'horreurs aussi, plein de choses très amusantes. Je rappelle quelques-uns de vos titres, L'Aigle et le Léopard, les lésions dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich. Si vous aimez les Anglais, lisez-le, vous allez les adorer. Publié chez Perrin en 2023. 300 jours, 10 mois pour en finir avec Hitler chez Perrin, toujours cette année. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre, publié chez Perrin donc en 2024, dans lequel, grâce à des archives inédites, vous nous brossez un tableau de personnages plus douteux les uns que les autres de la 4e. Alors, avant de retourner dans le passé, c'est quand même toujours mieux avant, restons un peu au présent. Beaucoup disent que nous faisons un retour dans la 4e République actuellement. Vous, justement, qui avez étudié ce régime de fond en comble, est-ce que la comparaison vous paraît juste ?
Ah oui, je pense qu'elle s'impose, hein. c'est pas très original de le dire. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que la 5e République aura tenu très longtemps avant d'entrer en crise. Et j'ai revu sur Internet récemment une conférence de presse de De Gaulle, enfin, pas une conférence de presse, un entretien avec Michel Droit qui date de 1965. C'est la première fois qu'il s'exprimait en tête à tête avec un journaliste, etc. Et alors c'est ressorti sur tous les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu, et ça explique exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, nous avons fait la Constitution et les institutions pour qu'elles soient solides et qu'elles éloignent les partis du pouvoir. Mais le diable peut revenir dans le confessionnal. On a créé des confessionnaux pour éloigner le diable, mais si le diable est dans le confessionnal, les meilleures institutions du monde ne servent à rien. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui avec un personnel politique dont la dignité le dispute de l'incompétence. L'indignité.
Alors, revenons à la République des imposteurs. Alors, comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet ? D'où est venue l'idée ? Vous nous dressiez le portrait des Anglais, vous nous avez parlé de trahison de la droite, et là, et l'ami américain évidemment, De Gaulle, le plan Marshall, on en reparlera, et là, la 4e. Pourquoi ce sujet ?
C'est venu d'une coïncidence, en fait. Il se trouve que j'ai découvert il y a quelques années un film ancien de 95 que je n'avais jamais vu auparavant, qui s'appelle Un héros très discret. C'est un des premiers films de Jacques Audiard avec Mathieu Kassovitz, et ça raconte l'histoire d'un type qui n'a été ni résistant ni collabo, qui était comme beaucoup de Français planqué chez sa maman pendant toute la guerre, et qui, par un concours de circonstances extraordinaires, est pris, sans qu'il ait cherché d'ailleurs, est pris pour un héros de la France libre. Et il se prend au jeu et il entre dans la peau d'un personnage qu'il n'est pas, sous un faux nom. Il devient officier de l'armée de la libération, féroce épurateur, finalement sa vilénie est découverte tout à fait par hasard. Il s'en ouvre à ses supérieurs qui pourraient l'envoyer en prison et qui lui dit surtout « n'en dites rien ». Il va être condamné à quelques semaines de prison pour bigamie parce qu'il s'est marié deux fois au même moment. Et il va reprendre ensuite sa carrière et il va rester un haut fonctionnaire de la 4e République. Et à ce moment-là, j'étais, pour des raisons de travaux historiques, je dépouillais des archives complètement inédites qui étaient celles de Jacques Faucard, pas ses archives quand il était à la présidence de la République, mais ses archives quand il était dans l'entourage de De Gaulle, à l'époque du RPF, hein, le parti que De Gaulle avait créé entre les deux guerres, le rassemblement, il ne voulait pas appeler ça un parti, le rassemblement qu'il avait créé entre les deux guerres, et Faucard protégeait beaucoup De Gaulle des entrées un peu dangereuses qui pouvaient se produire, d'anciens collabos, d'anciens communistes, etc., etc. Et il avait constitué des dossiers absolument incroyables sur le personnel politique de l'époque. Et en regardant ces dossiers, je me suis dit, mais le film d'Audiard est une bluette. La réalité dépasse la fiction 100 fois. Et notamment, je me suis intéressé au cas d'un personnage complètement oublié, qui s'appelait Jacques Ducreux, qui est un député radical qui était élu en 1951. et qui était en fait un personnage recherché par toutes les polices depuis 1944, un des pires collabos que la France ait compté, puisqu'il était à la tête, avec Dominique Sordet, de l'agence Inter-France. Quand vous lisez les mémoires de certains ministres de Vichy, ils refusaient de lui serrer la main, parce qu'il espionnait même les gens de Vichy, qu'il considérait comme pas assez hitlérien. Bon. Et donc, ce personnage disparaît en 1944, ressurgit 4 ans plus tard sous une fausse identité, sous l'identité de Tacnay, qui est le nom de sa mère. Il se présente à des élections, il est élu, il fait une campagne pour l'épuration, contre la résurgence de la collaboration. Enfin, c'est absolument hallucinant quand vous regardez les documents de campagne de ce type-là. Et il a un accident de voiture avec sa fille sur une route verglacée des Vosges et il meurt. Et dans la voiture, on trouve dans sa serviette des faux papiers, trois identités différentes, des passeports, des dollars, de la monnaie étrangère. Et on se rend compte que le type avait une fausse identité, qu'il en avait plusieurs et qu'il s'était fait élire député. C'est le seul député qui se soit fait élire sous une fausse identité. Et il y en a à peu près 36 000 depuis la Constituante.
Oui, je voulais vous demander, puisque la France a quand même bénéficié je ne sais pas si c'est le terme, mais est-ce que le statut de collaboration avec le régime de Pétain a permis, sur le moment, à la France de subir des dégâts de la part de l'ennemi moins ravageurs que dans d'autres pays occupés par l'Allemagne. Est-ce que c'est pas devenu la malédiction française, c'est-à-dire cette ambiguïté dans laquelle la France s'est retrouvée ensuite en tant que vainqueur, lui a créé une mémoire des règlements de compte, une confusion de tous, d'ailleurs ce que vous décrivez de cette confusion directement à la sortie de la guerre, qu'il a empoisonné comme aucun autre pays.
Sûrement, ouais. Parce que la collaboration comme la libération ont été deux périodes de guerre civile entre Français. Deux périodes de guerre civile. D'ailleurs, vous savez que De Gaulle a tout fait pour que Pétain ne revienne pas. Il était en Suisse, il aurait pu rester. De Gaulle a fait passer des messages et Pétain est revenu. Il se serait également passé du retour de Laval parce que ça a rouvert des plaies qui avaient besoin d'être fermées. On a beaucoup reproché à De Gaulle les rigueurs de l'épuration. Je pense que De Gaulle les a au contraire, amoindri, parce que s'il n'y avait pas eu l'épuration judiciaire avec tous les excès que j'ai dit, ça aurait été l'épuration sauvage qui aurait continué, et j'y insiste, épuration sauvage qui, pour partie, n'a pas été le fait de la résistance, mais d'authentiques bandits. Il y a d'ailleurs, d'insister, mais quelqu'un parlait de la restauration, vous parliez de Tocqueville. Donc Tocqueville vient après et tire les leçons de la Révolution française. Mais moi, je fais un parallèle entre l'après-guerre de la France et le Directoire, l'époque du Directoire, c'est-à-dire entre la fin de la Révolution, de la terreur de la montagne et la grande remise en ordre du Premier Empire. Il y a d'abord un point commun, c'est la destruction des archives. Qui a permis à beaucoup d'aigrefins de changer d'identité. Ouais. Et ça, c'est très important, c'est une cause matérielle. Puis il y a une cause psychologique qui est qu'on pensait repartir sur des bases absolument nouvelles et on se disait que tous les espoirs étaient permis. Mais entre tous les espoirs sont permis, mais toutes les actions sont permises, il y a une grande différence. Il y a des gens qui ont cru que tout leur était permis. Et les personnages dont je parle sont des personnages qui ont pensé vraiment repartir sur une nouvelle base et qu'on ne découvrirait jamais leur forfait.
Oui, arrive-t-on à chiffrer le bilan de l'épuration ?
Oui, alors on a beaucoup exagéré, on a parlé de 100 000. Ça c'est absolument faux, il n'y a pas eu 100 000 morts, heureusement. On sait qu'il y a eu à peu près 9 000 exécutions. Judiciaire ou extrajudiciaire, et puis il y a aussi des gens qui ont disparu dont on n'a jamais retrouvé la trace, et les familles n'ont d'ailleurs pas porté plainte. C'est vrai aussi pour les persécutions, de la persécution des juifs pendant la guerre. Beaucoup de juifs n'ont pas signalé la disparition de leurs proches, etc. Ils voulaient oublier. Puis surtout, ils ne voulaient pas se dénoncer eux-mêmes. Et donc, voilà, mais on a beaucoup exagéré cette affaire des 100 000. C'est d'ailleurs en partie due à l'exagération du Parti communiste qui prétendait avoir eu, selon les cas, entre 50, 60 et 100 000 fusillés, ce qui est faux, évidemment. Mmh. Les nostalgiques de Vichy ont dit, nous, on a eu aussi 100 000 morts. Enfin, c'est un chiffre mythique, hein, heureusement pour la France.
Alors, nous avons parlé de multiples personnages fascinants, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu plus sur certains. Alors, on a eu le fameux procureur collabo, mais qui a jugé Pétain, qui a requis la mort contre Pétain et Laval. Il y a un autre exemple fascinant, c'est le fameux Joseph Joanovici, alias Monsieur Joseph, qui a d'ailleurs inspiré, je ne sais pas si vous la connaissez, la bande dessinée, c'est formidable, de Nuri et Vallée, qui a été publiée chez Glénat il y a quelques années, qui s'appelle « Était une fois en France ». Alors vous le surnommez le Stavisky de la Libération.
Oui.
Racontez-nous un peu la vie de ce personnage.
Alors là, je crois que c'est un des plus connus, parce que je parle de gens peu connus, mais celui-là est assez connu, parce que tout était dans l'excès chez lui. Il était juif, apatride, bessarabien, d'origine bessarabienne. Il avait fait fortune avant-guerre dans la ferraille, des ferrailleurs, et il aurait pu, comme beaucoup, s'inquiéter de ce qui arrivait à ses coreligionnaires et s'enfuir. Pas du tout, il est resté. Et il avait des connexions absolument improbables, dont on sait d'ailleurs peu de choses, mais au bout d'un an d'occupation, il est devenu un des principaux auxiliaires de la Gestapo française. Et il a fait de l'argent sur le dos des juifs déportés, des juifs persécutés, des juifs volés, dont on prenait les biens. Il a fait une fortune en trafiquant avec les Allemands. Et en 44, au début de l'année 44, et spécialement après le débarquement, quand le vent a vraiment tourné d'une manière définitive, avait été idiot pour ne pas se rendre compte de la situation, il s'est mis à financer la résistance de la police. Et donc, il s'est fait passer pour l'un des artisans de la libération de Paris. Bon, au bout de quelques temps, les langues se sont déliées. Des Allemands arrêtés, qui n'avaient pas quitté Paris au moment de la libération, parce qu'il y en avait quelques-uns qui continuent à faire des affaires et qui sont partis un peu tard après le 25 août, et donc qui se sont trouvés coffrés, et qui, eux, ont parlé. Ils ont dit, mais nous, vous savez, on connaissait très bien M. Joanovici, il était chez Abetz, à l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, etc., il sablait le champagne tous les jours. Et donc, en même temps, les résistants de la préfecture de police le protégeaient, parce que les résistants de la préfecture de police... C'est pas du tout désobligeant avec eux que de rappeler que ce sont des résistants vraiment de la dernière heure. La police parisienne s'est mise en grève. Alors ça a été très important, effectivement, dans les derniers jours de juillet 1944. Hein. Donc ils protégeaient aussi quelqu'un qui avait fait comme eux. Donc les choses ont beaucoup traîné, beaucoup de magistrats ont traîné aussi. Puis finalement, il a quand même été jugé. On a d'ailleurs appris des choses qu'on ignorait au moment où il a été arrêté. Parmi ces choses, lorsque même la Gestapo de Paris, ce qu'on appelait la Carlingue, qui était les pires truands possibles et imaginables, qui avaient été recrutés par les Allemands vraiment pour tuer et voler, ont eux-mêmes manqué d'essence, car même les Allemands ont manqué d'essence dans les derniers jours qui précédaient la libération de Paris. C'est lui qui leur fournissait essence et camions pour faire les dernières rafles de juifs. C'est un personnage absolument ignoble et qui a eu le culot, après avoir été arrêté deux fois, avoir fait deux fois de la prison, en être sorti, etc. Puis finalement, ayant été assigné à résidence à Mende, plus petite préfecture de France, Mende en Lozère, il a demandé la nationalité israélienne. Alors ça lui a été refusé. Ben Gourion a dit « je veux pas de ce type-là ». Et il est mort en prison en 1965 parce qu'il a replongé ensuite. Et voilà, il n'a été ni fusillé, ni alors qu'il méritait 100 fois plus ce plongeon d'exécution que certains journalistes que je ne nommerai pas, mais enfin qui n'avaient tué personne.
Rémi.
Oui, tous ces exemples nous permettent aussi de nous interroger sur les ressorts de la collaboration, ce qui fait qu'un homme un jour décide de collaborer. Parce que pour tous ces gens, diriez-vous que c'est par conviction idéologique, quitte le lendemain à faire l'inverse, ou c'est donc pour des raisons purement prosaïques, pour pouvoir faire du business,
uniquement.
Pour pouvoir mener leurs affaires?
Uniquement, il n'y avait aucune idéologie, aucune.
Dans L'Ami américain, donc votre précédent ouvrage, vous évoquiez l'imposture du plan Marshall, et là, donc dans la République des imposteurs, vous y revenez.
à nouveau. Justement, racontez-nous comment il s'est préparé, comment il s'est déroulé, et surtout en quoi, parce que vous vous rappelez, le plan Marshall est une imposture.
Alors, vous avez raison de parler de ça, parce que je ne parle pas que des personnages peu recommandables. Je parle aussi de grandes impostures historiques. À mon avis, il y en a deux. Il y a effectivement le plan Marshall et il y a les débuts de la construction européenne, qui sont d'ailleurs très liés. La construction européenne, elle prend sa source aux États-Unis, donc elle n'a rien d'européenne au départ, pendant même la guerre, puisque Jean Monnet lui-même, dans des notes à Roosevelt, fin 43, lui explique que l'Europe, sortie de la guerre, si les Alliés la gagnent, ce qui devient un peu probable à ce moment-là, ne pourra pas se reconstruire sur la base des souverainetés nationales et que le poste de commandement devra être de l'autre côté de l'Atlantique. Et en même temps, il agit pour que ces États qui vont renaître et qui vont être libérés de l'occupation allemande soient tenus par différents mécanismes pour qu'ils obéissent au maître d'outre-Atlantique. Et ce mécanisme, c'est la dette. Or, le plan Marshall en fait partie. Le plan Marshall, c'est une affaire qui a certainement aidé à la reconstruction, mais le plan Marshall, ce n'était pas que pour la France, c'était pour tous les pays vaincu comme vainqueur, hein, puisque l'Allemagne en a profité, la Grande-Bretagne en a profité, etc. Et donc, il y a eu deux aspects. Il y a eu un aspect aide publique, un aspect prêt, pas toujours bonifié, et puis un aspect contrôle des économies européennes. Et c'est sur cet aspect de contrôle que j'ai insisté. Car quand on dit que le plan Marshall a aidé à reconstruire, c'est vrai. Mais il a en même temps fait des économies européennes des économies sous contrôle, des économies ancillaires, des économies qui étaient là pour aider l'Amérique à devenir la maîtresse du monde libre. Quelques exemples. Quand une entreprise importante qui exportait, entreprise française, avait des ambitions exportatrices, demandait de l'argent aux Américains pour se développer, etc., on adjoignait à son board, à sa direction, un contrôleur américain qui savait non seulement exactement ce qu'elle allait exporter, à qui disait « vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça », qui connaissait ses process industriels, ses secrets de fabrication. Premier exemple, le ministère du budget, très important dans un pays comme la France, en pleine reconstruction, était également flanqué de spécialistes américains qui avaient leur mot à dire sur le budget de la sécurité sociale, le budget de l'éducation nationale, etc. Là, c'est trop, là, c'est pas assez. Enfin, on était vraiment mis en coupe réglée. Troisième exemple, leur membrement, on en a beaucoup parlé. Leur membrement a été conçu, pas seulement par les technocrates du ministère du plan, Jean Monnet, qui est commissaire au plan, mais aussi par des conseillers américains, parce qu'il fallait vendre les machines américaines. Les machines américaines qui n'étaient pas faites pour travailler dans le bocage, dans des champs fermés. Donc on a détruit les haies pour pouvoir rendre les champs français compatibles avec le matériel américain. Voilà. Donc ça a été une opération vraiment de mise en coupe réglée, de contrôle et de mise en coupe réglée de l'économie française pour qu'elle reparte suffisamment pour faire des Français de bons consommateurs, mais pas suffisamment pour menacer les intérêts américains dans le monde.
Et d'ailleurs, vous rappelez, contrairement à une légende qui court, Jean Monnet n'était pas un agent américain, mais qui répondait à une idéologie.
Oui, tout à fait.
Que d'ailleurs qu'on pourrait appeler aujourd'hui idéologie mondialiste.
Ah, totalement, totalement. Mais il disait, l'Europe, telle que je la conçois, il disait ça à l'époque du plan Schuman, etc., donc les premières tentatives que j'étudie d'assez près, qui sont la communauté européenne de défense, le plan Schuman qui fonde la CECA, etc., il disait, ce sont les formes qui serviront d'épure au gouvernement mondial de demain. Il l'écrit, ça. C'est dans ses mémoires. C'est dans ses mémoires. Il rêvait de ça. Et puis quand il crée après-guerre, il inspire une organisation qui existe moins, enfin qui est moins importante maintenant, mais qui est la trilatérale. La trilatérale, dont on parlait beaucoup dans les années 70-80, était une forme de gouvernement mondial avec trois régions, région Amérique, région Europe, région Asie. Donc c'était tout à fait l'épure d'un gouvernement mondial.
Alors, s'il y a beaucoup de fake news qui courent à l'époque, et comme d'ailleurs aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui est très présent aujourd'hui et qui était très présent sous la quatrième, ce sont les complots et les complotismes. Vous écrivez même que l'obsession du complot avait pris une place centrale dans l'imaginaire collectif.
Ah oui. Pourquoi? Alors ça, c'est très intéressant et c'est dû à la guerre froide. C'est la peur des communistes, qui est relativement justifié à l'époque, parce qu'il pèse près de 20%, de 30% des voix, entre 20 et 30 suivant les élections. Ils sont tout juste derrière le mouvement gaulliste. C'est des gens qui font dérailler les trains, hein, quand même, à l'époque. C'est des choses qui existent. Donc, on a raison d'en avoir peur. Et puis, les communistes eux-mêmes ont peur des Américains, et ils n'ont pas non plus tort, puisqu'on a aussi monté des affaires contre les communistes. Et donc, vous avez aussi une troisième catégorie de gens, et on en revient aux imposteurs et aux escrocs, vous avez des gens qui profitent de cette peur pour soutirer de l'argent, qui aux Américains, qui au patronat, pour monter des ligues de défense. Et vous avez une histoire absolument extraordinaire, qui est celle du Plan Bleu, où une bande d'escrocs qui ressemble vraiment aux Pieds-Niclés, c'est d'ailleurs c'est une BD qui marche très bien sous la 4ème République, c'est pas pour rien à mon avis, avec le nommé Philochard qui essaie d'embobiner tout le monde, qui n'y arrive pas toujours, mais il y a vraiment des gens comme ça dans le Plan Bleu qui vont voir un châtelain breton un peu demeuré, auquel ils font valoir qu'il pourrait être le prochain chef de l'État, qui se servent de son château comme centre d'une conjuration. En fait, il n'y a absolument aucune conjuration, mais il y a simplement des escrocs qui soutirent de l'argent aux services secrets, aux Américains, pour lutter contre les communistes. C'est tout à fait extraordinaire.
Et d'ailleurs, dans ce plan-là, alors je sais pas si je me rappelle plus si ce personnage intervient au même moment, mais il y a quand même vous racontez le destin et la vie d'un personnage assez fascinant qui est un agent triple. C'est Roger Perret.
Ah, Roger Perret. Alors,
et qui lui soutire à tout le monde.
Ah oui, absolument. Alors lui, il travaille vraisemblablement pour les soviétiques, à coup sûr pour les communistes vietnamiens, et peut-être aussi pour les Américains, puisqu'il se réfugie en Amérique du Sud avec un faux passeport américain. Roger Perret est un personnage emblématique de l'époque. Il est... c'est un escroc. Dès avant la guerre, il a été condamné plusieurs fois pour des faillites frauduleuses, il a détourné de l'argent, etc. Et il était dans la confection. Et en 1941, il devient l'homme qui fabrique et qui vend à la milice ses uniformes. Donc il fait déjà fortune comme ça. Il est radical et franc-maçon, j'ajoute. Ça n'empêche pas d'être avec la milice. Il entre aussi au PPF de Jacques Doriot, il vend aussi les uniformes au PPF de Jacques Doriot. Et puis en 1944, il se vend aux Américains en dénonçant les gens qui étaient à ses côtés au PPF et dans la milice. Puis il disparaît un peu et puis on le retrouve, sans qu'il y ait eu de poursuite sérieuse, on le retrouve conseiller d'un général qui s'appelle le général Revers, qui a 3 étoiles, mais qui voudrait bien en avoir 1 ou 2 de plus, et devenir même chef d'état-major des armées, et il devient son conseiller en communication. Alors il se trouve qu'il était le supérieur en maçonnerie, le général Revers. Et il achète littéralement des parlementaires, même des ministres, puisqu'on retrouve, quand on l'arrête, parce que finalement on l'arrête, hein, au bout de quelques années, on retrouve un carnet qui avec des noms et les sommes en face de chaque nom. Bon. Et tout ça est prouvé. Et d'où sortait-il l'argent? C'est pas le pauvre général Revers avec son traitement qui pouvait le payer. Non, non, non. Il obtenait auprès du général Revers des informations secret défense qui vendaient aux soviétiques. Et en particulier, les soviétiques, on n'est pas certain, mais en tout cas, les communistes vietnamiens. Or, à l'époque, la France est en guerre contre le Viet Minh. Et il y a des soldats français, c'est pas encore des appelés, ça sera en Algérie, c'est l'armée de métier, mais enfin, ce sont des gens qui se battent tous les jours contre le Viet Minh et qui voient leur position, leur stock de munitions, etc., tout ça dévoilé au Viet Minh. Et ça se passe un peu avant Dien Bien Phu. Donc le type faisait ça. Et le général Revers était vraisemblablement complice. Enfin, et en tout cas, s'il n'était pas complice, il s'en débrouille les millions dont ce personnage de Saquet de Corde, avec lesquels il faisait sa campagne de promotion auprès des ministres. Donc finalement, il est arrêté, il y a un procès, il n'est pas mis en prison, il est gardé à vue vaguement, et puis il doit se présenter, puis il ne se présente pas, et on retrouve sa trace à l'Amérique du Sud, on ne le retrouvera jamais.
C'est fascinant. Alors des personnages comme ça, vous en avez plein, vous racontez vos... Alors malheureusement, l'émission se termine, on aurait plein de questions, vous rendez un hommage à Michel Debré d'ailleurs, qui explique... que c'est la tromperie qui a fait chuter le régime. On
Absolument.
Peut se demander si...
Il faut relire son pamphlet, c'est Prince qui nous gouverne, qui a été republié il y a quelques années et qui dit tout sur la chute de cette 4ème République.
Et on se demande si c'est pas la tromperie qui fera chuter la 5ème. Donc je rappelle votre livre qui est La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre, qui a été publié chez Perrin l'année dernière. Et le plus récent, c'est 300 jours, 10 mois pour en finir avec Hitler. On apprend aussi pas mal de choses. Toujours chez Perrin, sorti en 2025, donc cette année. Merci infiniment Éric Branca d'avoir accepté notre invitation.